Mon cher Étienne Klein, c'est fou comme les centraliens sont blagueurs. Antoine a chanté ses élucubrations en chemise à fleurs. Vous avez fait passer une tranche de chorizo pour l'étoile Proxima du Centaure. Précisons que vous êtes né à Paris un 1er avril en 1958 de Denis, ingénieur, et Françoise, mère au foyer. Un frère vous précède, 5 autres enfants vous suivent. Famille nombreuse, famille heureuse. Votre père aime les devinettes et les calembours, raisonnement contre-intuitif, double sens, moralité, il ne faut pas se fier aux évidences. Enfant curieux et passionné par les sciences, vous lisez tout ce qui vous tombe sous la main. En première à Louis le Grand, vous découvrez Blaise Pascal et Jean-Jacques Rousseau, premier pas vers la philosophie.
Ça donne une certaine densité à sa propre existence.
1976, bac C, mention très bien. 1978, élève à l'école centrale. 1980, stagiaire au CERN de Genève, découverte de la physique et de ses paradoxes. Et déjà cette interrogation, comment faire coexister la matière et l'antimatière, la physique et la philosophie, le temps d'Einstein est-il celui d'Heidegger? Vous enseignez dans les prisons où votre grand-oncle était aumônier, puis à Centrale. J'aime expliquer les choses qui me plaisent. Guidé par votre modèle, Michel Serres, vous soutenez l'accès à la science comme une exigence républicaine et politique. La connaissance scientifique doit circuler librement.
Je pense que c'est important de comprendre ce qu'il y a de particulier dans la démarche des scientifiques.
À 30 ans, l'annonce d'un cancer des cordes vocales vous presse d'écrire votre premier livre de vulgarisation, une démarche que vous poursuivez dans vos chroniques à France Culture.
Pour comprendre les lois de la nature, il faut trouver des stratagèmes.
Vous vous remettez. C'est à cette époque que vous commencez à pratiquer l'alpinisme à un haut niveau. Mon cher Étienne, n'était-ce pas aussi pour vérifier in situ l'implacable loi de la gravité?
Je sais pas comment c'est possible de faire un portrait comme ça, mais il est juste.
C'est pas mal, hein. Il est juste en plus. Oui. Hein. En plus, avec des vraies informations dedans. Oui, ah oui, absolument.
Je découvre que j'ai été jeune, c'est incroyable.
On est tous passés par là. Ces courts-circuits que vous pratiquez dans cet ouvrage, et tout au long de votre vie d'ailleurs, cette curiosité qu'on voyait à l'instant dans ce portrait, cette façon de en quelque sorte d'emprunter les chemins de traverse, de mélanger les disciplines, vous dites que ce livre, il est né aussi d'un événement qui vous a touché profondément, évidemment, c'est la perte de votre frère, que ça a été le déclic pour écrire ce livre, parce que votre frère, Pascal, était à la fois un bricoleur, un mécanicien de génie, un touche-à-tout, qui avait été traumatisé par l'expérience scolaire, en revanche.
Oui, il avait un an de plus que moi, il est mort il y a un peu plus d'un an, en effet. Et sa mort m'a évidemment fait un choc et je me suis rendu compte que c'était mon antiparticule. Dans le petit reportage, on parle d'antimatière. Antiparticule, c'est-à-dire moi en inversé. C'est-à-dire qu'il était rétif à toute forme d'abstraction, notamment aux mathématiques modernes qu'on enseignait dans les années 70 en s'interdisant toute référence aux exemples concrets. Et par contre, avec ses mains, il était capable de réparer n'importe quel moteur électrique, thermique, de char d'assaut, d'avion, de mobylette. Et l'école n'a pas su, à l'époque, reconnaître ce talent qui confinait quasiment au génie, à mon avis.
Parce que ce que vous écartez, ce que vous réfutez, c'est cette conception très française, dites-vous, qui consiste à nous classer, dès l'école, justement, soit comme littéraire, soit comme scientifique. Vous dites que ça produit beaucoup de dégâts. Et vous, justement, vous passez par-delà.
Un enfant à 10 ans, c'est s'il est bon en maths ou pas. S'il est bon en maths, on l'oriente d'une certaine façon. S'il n'est pas bon en maths, on l'oriente d'une autre façon. Et s'il est mauvais en maths, on ne va pas insister. Alors qu'on peut trouver un intérêt pour les mathématiques à tous les âges. Il peut y avoir des barrières mentales qui peuvent sauter. Et je trouve que ce système, en effet, considère l'intelligence comme étant quelque chose qu'on peut ranger en catégories. Or, c'est peut-être d'ailleurs un réflexe de notre cerveau. Dès lors qu'on distingue des choses, A n'est pas la même chose que B, on s'oblige à hiérarchiser les choses. Est-ce que A est meilleur que B ou est-ce que A est moins bon que B? On ne peut pas penser la différence sans penser la relation d'ordre. Et il me semble que l'intelligence, il faut la considérer comme quelque chose qui se déploie selon un spectre qu'on n'a pas à hiérarchiser à l'intérieur de lui-même.
Dans ces courts-circuits que vous nous proposez dans cet ouvrage, vous faites un rapprochement assez incongru, qui peut paraître en tout cas incongru, entre deux de vos figures héroïques de votre jeunesse. Qu'est-ce qui relie Albert Einstein aux Rolling Stones?
Bon, en fait, quand j'étais adolescent, il y avait deux affiches d'Einstein. L'une qui le montre jeune, l'autre qui le montre plus âgé. Et entre les deux, il y avait une affiche des Rolling Stones. Mais alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire un chapitre sur les deux. Au début, je n'avais pas d'idée, mais quand on aime, on trouve. Et quand on cherche, on trouve.
Et vous en avez trouvé, justement.
Einstein, ça veut dire une pierre en allemand. Rolling Stone, ça veut dire des pierres qui roulent en anglais. Et puis, il y a la langue. Einstein a tiré la langue pour se moquer des paparazzis qui essaient de le piéger à la sortie d'un restaurant où il avait fêté ses 71 ans. Il tire la langue. Les Stones ont choisi comme logo une langue plus arrondie que celle d'Einstein. On les voit. Et puis, il y a quelque chose qui est peut-être moins connu, c'est que Einstein a donné sa dernière conférence en Europe au Royal Albert Hall à Londres. Il savait qu'il ne reviendrait plus en Europe. Hitler venait d'arriver au pouvoir. C'était le 3 octobre 1933. Il a voulu quitter l'Europe. Il a donné une conférence à cet endroit, dont on peut lire le texte aujourd'hui, qui est assez remarquable, où il défend la liberté. Einstein cesse d'être anti-militariste. Il sait que contre Hitler, il faudra se battre, puisque Hitler veut la guerre. Et il se trouve que les Stones, je l'ai appris récemment, ont donné l'un de leurs premiers grands concerts londoniens 30 ans plus tard, dans la même salle. Donc ils se sont croisés dans l'espace-temps à des moments différents.
Voilà, eux aussi d'ailleurs ont cultivé une forme de relativité au temps, et c'est toujours le cas d'ailleurs de Mick Jagger aujourd'hui. Alors, Albert Einstein, revenons à Albert Einstein, parce que votre héros, ce héros, n'est pas un héros de cinéma, Jean-Mathieu.
Ah bah oui, voilà, c'est vrai qu'il a une belle tête. Hein, il voyage dans le temps avec, dans ses bagages, une bombe nucléaire, sans perdre un poil de sa célèbre moustache. Et pourtant, Albert Einstein, n'a toujours pas un grand film qui évoque sa vie. Hein, ils sont nombreux, les scientifiques, à avoir eu leur biopic au cinéma. On pense à Alan Turing, Marie Curie, Stephen Hawking. Et toujours, au milieu de ces histoires de vie et d'équations, planait l'ombre du père de la théorie de la relativité, sans plus. Alors, il y a bien eu une série, quand même, en 2017, baptisée Genius, des téléfilms pour la télévision italienne, et même, je crois que vous la connaissez, une comédie australienne intitulée Einstein Junior. Hein, comédie, alors, toute relative, où un jeune Albert Einstein australien, bref, griffonne la célèbre équation E égale MC2 pour résumer une formule faisant mousser la bière. Hein. Voilà, c'est ça le pitch. Alors la carrière d'Einstein au cinéma est donc courte et seulement faite de second rôle. En même temps, vous l'avez dit, un génie qui tire la langue est toujours plus complexe à comprendre. Mais on va le voir d'ailleurs cet été dans Oppenheimer, le film de Christopher Nolan sur la bombe atomique. Mais pourquoi, d'après vous, Albert Einstein n'intéresse pas les grands cinéastes?
Mais parce que c'est trop, quoi, il est trop. Oui. Si on veut simplement raconter l'année 1905, il publie 5 articles sur 5 sujets différents qui, chacun dans son coin, va révolutionner la physique. Déjà, raconter ça, ça serait un film entier. D'accord. Ça serait d'ailleurs une très belle expérience pédagogique. Mais je devrais peut-être pas le dire, mais je prépare avec Laurent-Frédéric Bollet et Christian Duriot une bande dessinée sur Einstein dans laquelle on imagine qu'il revient. Ah, il revient en 2024. Et on le fait visiter des endroits.
Vous êtes surpris, non?
Voilà, on essaie de deviner ses réactions devant telle et telle situation. Mais je ne peux pas en dire plus.
N'en dites pas plus. Étienne Klein, nous avons une archive à vous montrer. Et on va retrouver un autre de vos héros, d'ailleurs une autre référence, un grand intellectuel auquel vous rendez hommage aussi dans un chapitre de votre ouvrage Court-circuit. Un intellectuel qui était installé d'ailleurs ici même à votre place à 28 minutes, quelques jours avant sa disparition.
Ouais, il s'agit du philosophe et historien des sciences Michel Serres, qui militait comme vous contre le cloisonnement des univers scientifiques et littéraires. C'était sa dernière interview télévisée, donc ici même sur ce plateau. Le 18 mai 2019, il nous donnait une leçon d'optimisme.
Dans l'état actuel, qui sont troublés, qui sont transformés, nous vivons un moment de l'histoire absolument exceptionnel, vous savez bien. Eh bien, si on est pessimiste, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Tandis que j'ai été professeur, comme vous l'avez vu, je suis aussi grand-père, etc. Je m'occupe beaucoup des jeunes générations. Et si on dit « tout va mal, tout est foutu », etc., mais les jeunes générations sont désespérées. La seule manière de les aider, de combattre avec eux, si vous voulez, j'aime pas beaucoup le mot combattre, mais enfin, vous voyez, de travailler avec eux, c'est de, justement de dire, il y a des solutions, on peut finalement sortir d'affaire, etc.
Une leçon d'optimisme quelques jours avant sa disparition, qu'il savait proche. Est-ce que vous partagez cet optimisme toujours aujourd'hui, malgré tout, malgré ce dont on va parler tout à l'heure, la guerre en Ukraine, la crise climatique?
Ah, il ne faut pas que ce soit un optimisme naïf. D'ailleurs, Michel Serres avait le sens du trajet. Il disait souvent, je pense à partir d'Hiroshima. Donc, il est conscient de la violence l'obsédait, et il cherchait des moyens pour que l'humanité se débarrasse de la violence. Donc moi, je ne cède pas à un optimisme naïf. D'ailleurs, Jean d'Ormesson, qui était un grand ami de Michel Serres, disait « Un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. » C'est plutôt d'ailleurs une marque de confiance en soi. Non, il faut plutôt être réaliste, c'est-à-dire faire des mots croisés, ne pas y renoncer. Si on est pessimiste, on ne fait même pas de mots croisés, on ne tente pas à la faire. Mais être réaliste, c'est-à-dire savoir...
Le crayon à papier, plutôt, les mots croisés, oui, ça, pour corriger aussi. Le cas échéant. Oui, une gomme.
On l'a vu, notamment pendant le Covid, Ben, y a eu une défiance hein, vis-à-vis des scientifiques. On a découvert que la France, il y avait 67 millions d'épidémiologistes à ce moment-là. Vous-même, vous parlez d'échec de la vulgarisation scientifique. Pour vous, elle est réelle, c'est...
Échec relatif.
Échec relatif, voilà. Pourquoi il y a ça?
Parce que moi, j'ai pris conscience pendant le Covid que la vulgarisation, ça ne marche qu'auprès de ceux auprès de qui ça marche. C'est-à-dire ceux qui lisent des livres, qui viennent aux conférences, qui s'intéressent. Mais il y a toute une partie de la population... qui reste très éloigné des raisonnements scientifiques. Et d'ailleurs, quand on parle de ces sujets, on oppose les scientifiques et le grand public. Mais cette séparation est artificielle et poreuse. Si vous m'interrogez sur la nucléosynthèse primordiale et boson de Higgs, je peux vous répondre.
Il allait le faire.
Si vous m'interrogez sur le principe de fonctionnement du vaccin ARN messager, je serais plus hésitant. Si vous interrogez un biologiste sur ce vaccin, il pourra répondre. Mais si vous l'interrogez sur le boson de Higgs, il sera hésitant. Autrement dit, un scientifique n'est compétent que dans sa discipline, aux abords de sa discipline. Et c'est pour ça que les courts-circuits, parfois, sont utiles pour que les gens se parlent.
C'est-à-dire qu'un scientifique doit aussi cultiver le doute et doit aussi, parfois, dire qu'il ne sait pas quand il ne sait pas.
Il ne faut pas survendre le doute. Parce que ceux qui disent la science, c'est le doute, sont ceux qui font qu'on procrastine sur des grandes décisions. On tarde à accepter des vérités scientifiques. Non, la science, moi, je ne doute pas que l'atome existe. Je ne connais pas de physicien qui doute de l'existence de l'atome. L'univers observateur en expansion. La Terre est plutôt ronde que plate. Ça, c'est réglé. Par contre, ce corpus de connaissances qu'est la science, nous savons qu'il pose des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. Autrement dit, le doute du scientifique, c'est pas un doute, c'est pas le doute de Lignard. C'est celui qui sait qu'il ne sait pas. Il sait qu'il ne sait pas et donc il fait des recherches.
Et est-ce que ce doute parfois du grand public, vous n'y avez pas vous-même aussi un peu participé à cause de ce que vous appelez le chorizo cosmico-comique, hein, vous l'évoquez dans votre livre, évidemment, c'est ce canular, cette idée saugrenue, écrivez-vous, que vous avez eu de poster le 31 juillet 2022 sur Twitter la photographie d'une tranche donc, de chorizo en prétendant qu'il s'agissait d'une image prise par le tout nouveau télescope James Webb de l'étoile Proxima du Centaure. La crédulité, c'est-à-dire l'impact de ce tweet et la crédulité que ça a révélé, quelles leçons vous en tirez?
C'était une idée plus sotte que grenue, si j'ose dire. Non, j'ai complètement été débordé par l'affaire, parce que cette photo, elle est classique. On l'utilise pour des canulars depuis au moins 2018. Quand vous voulez faire un canular en astrophysique, il n'y a pas beaucoup de choix. Il faut que ce soit rond, orange et rouge, donc le saucisson lyonnais avec des taches blanches, ça ne marche pas. Donc c'est le chorizo qui est utilisé de façon récurrente. Et comme je précisais la distance de l'étoile, 4 années-lumière, pensez qu'on pourrait avoir des détails sur la surface d'une étoile qui a 4 années-lumière, ça suppose un télescope très grand. Donc je pensais que dans le canular, il y avait suffisamment d'informations pour qu'on puisse voir que c'est un canular. Et quand ça a explosé, je me suis dit, il faut quand même arrêter la machine qui s'emballe. J'ai mis en commentaire, selon la cosmologie contemporaine, il n'existe pas d'objet relevant de la charcuterie ibérique dans l'univers ailleurs que sur Terre. Donc pour moi, c'était bon, j'avouais.
Ça n'a pas été clair.
Ben non.
Et qu'est-ce que ça vous inquiète, justement, cette crédulité collective?
Disons qu'il y a eu plusieurs types de réactions. Il y a eu des articles dans le monde entier, dans des langues que je ne parle pas. Donc ça serait intéressant, d'ailleurs, de voir comment les différentes cultures reçoivent le canular. Je sais qu'aux États-Unis, beaucoup pensent qu'un canular, c'est une fake news. Et donc, ça porte atteinte au gré de la science. Alors qu'en fait, un canular, il est toujours avoué. Et en étant avoué, il permet à chacun de voir les biais cognitifs qui ont fait qu'il a été trompé. Et tout le monde a été trompé par des images, moi le premier. Donc il n'y a pas de honte à être trompé. Simplement, comme il y a de plus en plus d'images, il est bon de savoir comment les lire et ne pas être trompé de façon trop automatique.